La destruction de créatrice, oui, c'est Schumpeter. C'était un économiste au départ, qui avait des théories plus ou moins rationnelles. D'ailleurs, même quand on dit Schumpeter, aujourd'hui, c'est presque péjoratif. C'est quelqu'un qui disait, ouais, bon, bah, faut bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi, grosso modo.
Bonjour à toutes et à tous, quelle émotion cet après-midi pour tous les membres de Zoom Zoom Zen, surtout ceux qui à l'école ne sont pas allés plus loin que le brevet, hashtag on ne juge pas, hashtag Quentin on t'aime.
Mais n'importe
de
quoi.
Recevoir pour la première fois, pour la première fois dans le temple du Gai Savoir, là où il y a quelques jours à peine on devisait avec Patrick Sébastien un prix Nobel. Un prix Nobel dans Zoom Zoom Zen, c'est comme un cardinal dans un sex shop, me disait Laurent Goumard, le directeur des programmes d'Inter, qui décidément n'a pas une très haute opinion de ce qu'on fait ici visiblement. Eh bien toc Laurent, on l'a fait, un prix Nobel d'économie a accepté notre invitation. Alors, il faut dire qu'on a décidé de zoomer cet après-midi sur une notion qu'il connaît bien, qu'il a même contribué à moderniser. Cette notion, c'est celle de destruction créatrice. L'idée qu'en économie, une innovation va détruire un emploi, un mode de production, pour lui en substituer un autre, bouleversant le marché, mais générant finalement une nouvelle phase de croissance. Un processus dans lequel il y a des gagnants, ceux qui ont pris par exemple le train de l'innovation, comme les dirigeants de Netflix, qui au tournant des années 2000 ont compris tout le potentiel de la vidéo à la demande. Et il y a des perdants, des losers, des bolos, comme notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui a voulu également, au tournant des années 2000, lancer une chaîne de vidéoclub, car, je le cite, le DVD, c'est le futur. On était en 2003, 6 mois plus tard, il déposait le bilan et vendait tous ses DVD aux puces de Saint-Ouen, sauf évidemment la section pour adultes, qu'il conservera pour, je cite, son plaisir personnel. Voilà un exemple poignant des effets de la destruction créatrice en économie quand l'éclosion d'un secteur entraîne l'agonie d'un autre. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un modèle qui permet de prévoir ce qui nous attend dans 5-10 ans, notamment avec les progrès de l'IA? La destruction créatrice doit elle être encadrée, régulée, afin que la croissance ne s'accompagne pas d'une nouvelle flambée des inégalités. En tout cas, si vous voulez investir, Cyril vous conseille d'oublier l'IA et de tout miser sur le métavers. En conférence de rédaction, il était tout excité. J'ai vu les images avec l'avatar de Zuckerberg pixelisé comme un Mario des années 90. C'est sûr, le métavers, c'est le futur. Si Cyril le dit, à mon avis, vous devriez foncer.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Philippe, vous êtes prix Nobel d'économie 2025, prof au Collège de France, à l'Institut européen d'administration des affaires et à la London School of Economics. Ouais. Vous avez conseillé Emmanuel Macron pour son programme économique lorsqu'il était candidat en 2017. Vous êtes depuis plus critique de l'action du président de la République. On y viendra. Mais avant ça, on va s'interroger sur cette notion de destruction créatrice. Heureusement, c'est votre sujet de prédilection. Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter mes Nobel à moi. Comme beaucoup de Français, ils ont été bernés par Emmanuel Macron, car en devenant mes chroniqueurs en 2022, il croyait fort à la théorie du ruissellement, selon laquelle, si je gagnais beaucoup, le pognon finirait un jour par couler jusqu'à eux. Manu, vous avez bien eu les enfants.
Mais moi, je n'y ai jamais cru.
Ah oui, non, vous non, bien sûr que non.
Jamais. Mais ça, contrairement à ce que des gens dans Wikipédia ont essayé de me faire dire.
C'est vrai, non.
J'ai dû me bagarrer sur Wikipédia.
Il n'y a que notre président qui y croit encore à cette théorie.
Je ne sais pas, faut demander.
En tout cas, ici, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas bien marché pour Manon Marini et Quentin.
Bonjour.
À vos côtés, Philippe, depuis hier, elle est en boucle sur notre émission. J'ai tellement de questions à poser au prix Nobel d'économie, me disait-elle, notamment celle-ci qui la hante depuis des mois maintenant. Un protectionnisme agressif est-il la seule solution au choc d'importation que peut générer la destruction créatrice à l'échelle d'un pays? Non, je déconne, elle a eu un bac L.
Manon, j'ai peu de notions d'économie, c'est vrai.
Vous n'avez pas l'air très confiante aujourd'hui. Dans votre pièce jointe aujourd'hui, Manon.
Eh ben, je vais vous parler du prix, justement, que vous avez reçu, Philippe Aguillon, le prix Nobel de l'économie. Quand est-ce qu'il a été créé? Quels sont les Français qui l'ont obtenu? Ce sera dans la pièce jointe.
Face à vous, Philippe Aguillon, lui, il n'a peut-être pas fait de DEA, de doctorat ou de PhD à Harvard, mais il a fait l'école de la vie. Une école qu'on appelle aussi VRP pour les cafés Richard, secteur Basse-Normandie. Le capitalisme, il l'a appris dans, pas dans les livres, mais dans les troquets.
Exactement.
Un capitalisme sauvage où tous les coups sont permis, puisque je rappelle à son ex-employeur que Quentin était parti avec un percolateur de démonstration, même si selon lui, il ne s'agissait pas d'un vol, mais d'une subtilisation créatrice.
Exactement.
Quentin,
on a bien essayé le café.
Voilà. Oui, j'imagine, oui.
Dans notre colloque.
Quentin, chaque matin, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre notion. Alors, la destruction créatrice, ça les a inspirés.
Oh, terme complexe, s'il en est, un oxymore, notion économique. Que disent les personnes que j'ai rencontrées sur la Côte d'Azur de cette destruction créatrice? Comment s'adapter, conquérir ce nouveau monde qui s'offrira à nous d'ici quelques années avec l'IA? Des réponses complètement à la rue ou pas dans la prochaine demi-heure.
J'aime bien comme vous pointez du doigt en agitant votre main comme ça, comme vous faites le petit avion, c'est très intéressant. Si la destruction créatrice est le moteur de la croissance, alors sur quelles innovations faut-il miser? En 2025, vers 16h30, le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte des projets les plus fous en cours, des technologies les plus prometteuses. Comment, Cyril? Le Blu-ray? Oui, le Blu-ray. que ça va marcher très fort. Juste avant 17h, est-ce qu'on retrouvera Lisa Perriot ou bien sera-t-elle déjà remplacée dès aujourd'hui par une IA humoristique? C'est fort possible. Après 17h, restez avec nous, surtout si vous êtes porté sur la chose, comme on disait au 19e siècle, puisqu'on va parler littérature érotique, non pas avec Bruno Le Maire, mais avec une vraie autrice de livres érotiques. Mais d'abord, zoom donc sur cette notion de destruction créatrice avec Philippe Aguillon. Philippe, mi-octobre, quand on nous a annoncé que vous étiez le prix Nobel d'économie, vous avez été très surpris, vous avez même dit que vous ne pensiez pas l'avoir avant 5 ou 6 ans. Donc oui. Mais vous pensiez quand même l'avoir à un moment.
Disons que c'était une possibilité. On disait que j'étais dans ce qu'on appelle la shortlist.
Mais voilà. Comment ça se passe? On vous appelle?
On t'appelle pas, mais je sais pas. Ça se disait.
Ça
se disait que j'étais ce qu'on appelle un nobelisable. Voilà.
Et pourquoi ça a été précoce pour vous? Pourquoi ça vous a surpris de?
Parce que l'an dernier, on l'avait donné à des collègues à moi, que je respecte beaucoup, sur des sujets pas tellement éloignés du mien, en fait, qui avaient travaillé sur des sujets assez proches. Donc je pensais qu'on passerait à d'autres choses.
Oui, l'année en tout cas,
avant de revenir à la croissance, etc.
Donc, et vous êtes content? Vous êtes content quand même?
Et comment peut-on ne pas être content? Comment peut-on ne pas être content quand quelque chose comme ça vous arrive? Ouais. Oui, non, évidemment, c'est extraordinaire. Je ne m'y attendais pas du tout cette année. Et donc, vous recevez plein de messages merveilleux. Il y a beaucoup d'amis des beaux jours aussi qu'on découvre.
Voilà. Si vous découvrez, c'est merveilleux. De vous,
la nature humaine. Mais écoutez, moi, je prends tout. Je prends également les amis des beaux jours.
Le message qui vous a le plus surpris?
Il y a eu plein de messages de personnes qui... J'ai eu des messages de personnes que j'avais pas vues depuis très longtemps, des amis d'enfance, des... Ça, c'est des choses vraiment particulièrement qui vous touchent.
Ouais.
Voilà, je t'ai suivi.
Un prof, peut-être?
On s'est pas vu. C'est des profs,
prof,
des camarades de classe, ou des profs, maintenant, profs de mon enfance, ils n'en ont plus beaucoup envie, malheureusement.
Un président de la République, jeune.
Ah oui, peut-être.
Le président, il avait un message très gentil, et puis il a fait un tweet, il avait tweeté. Mais il m'avait envoyé également un message très sympathique, mais il y a eu aussi beaucoup de messages très personnels et de personnes je pensais qu'on avait perdu, on s'était perdu de vue et puis que tout d'un coup reviennent, enfin il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des messages très, très touchants, très, très émouvants.
Dans un monde qui va vite, où le processus de destruction créatrice menace des emplois jadis considérés comme à l'abri des machines, comme journaliste, il est le dernier des Mohicans. Un artisan de l'info, dont la place sera bientôt dans un musée, mais qui persiste pourtant à nous offrir son doux assort intégralement fait à la main. Bien sûr, pour dresser le portrait de Philippe Aguillon, il suffirait de taper Philippe Aguillon sur Wikipédia, ou même de demander à ChatGPT qui est Philippe Aguillon. Ça nous coûterait moins cher. Mais non, car c'est l'honneur du service public que de soutenir des métiers voués à disparaître. Cyril Lacarrière, racontez-nous, Philippe Aguillon, d'où ça sort?
Eh bien, imaginez un économiste qui parle de croissance comme d'un organisme vivant. La croissance, elle respire, elle mute, elle s'adapte. C'est un chercheur qui se demande pourquoi certains pays s'enrichissent et d'autres stagnent, comment l'innovation change nos vies et nos sociétés, pourquoi l'État et le marché doivent parfois marcher main dans la main. Je vous présente, notre invité, une rosta. On le présente parfois comme l'économiste français le plus cité au monde. Voici donc Philippe Aguillon. C'est en 1956 qu'est né le bonhomme, et attention, dans sa famille, il y a des communistes. Notez qu'à l'époque, c'était une espèce moins rare qu'aujourd'hui. Sa maman va devenir une figure de la mode française. Gabi Aguillon a fondé la marque Chloé. Mais notre invité, lui, la mode, il s'en moque. Ce qu'il aime, c'est l'économie. Bon.
Et alors, le parcours de Philippe Aguillon?
Lycée Henri IV, école normale sup, mathématiques appliquées aux sciences économiques à Paris 1, un DEA et un doctorat en passant, et pour finir, de faire briller le CV, un PhD en économie à l'université de Harvard. C'est smart. Philippe Aguillon, c'est celui qui va remettre au goût du jour la destruction créatrice, un concept forgé par Joseph Schumpeter au milieu du XXe, et donc dont on va parler dans cette émission. Et puis Philippe Aguillon va aussi se muer en conseil pour les dirigeants du monde, dont le président Macron. Alors d'où ça sort un prix Nobel d'économie? Eh bien déjà un peu de là, et il va avoir beaucoup à nous en dire cet après-midi.
Merci Cyril, de l'art de ne pas se mouiller. On a noté que vous n'avez pas fait le d'où ça sort sur la destruction créatrice.
Oui. Oh non,
en fait, Philippe Aguillon, ça aurait été un peu casse-gueule.
Oui,
alors
ça.
Justement, Philippe, c'est vous qui allez ouvrir plutôt l'émission. Vous avez reçu le prix Nobel d'économie pour vos travaux sur la destruction créatrice, donc vous allez pouvoir nous expliquer, en gros, assez schématiquement, ce qu'est la destruction créatrice.
La destruction créatrice, c'est l'idée que les nouvelles innovations rendre les anciennes technologies ou les anciens produits obsolètes. Voilà, quand vous avez l'ordinateur, la machine à écrire, vous la rangez au grenier, quoi. Voilà. Bon, c'est une chose qui paraît très naturelle, mais l'idée, c'était en fait de construire un modèle de croissance qui incorporait la destruction créatrice.
Parce qu'avant, c'était pas le cas.
Voilà. Et avant, il n'y avait pas. Le modèle dominant était un modèle où la croissance était portée par l'accumulation de capital. Je produis avec du capital et une partie de mon produit, je l'investis pour augmenter le stock de capital, ce qui entretient la croissance. Mais en fait, cet économiste, qui était Robert Solow, montre que sous des hypothèses raisonnables de rendement décroissant sur le capital, eh bien, je ne peux pas croître indéfiniment sur le capital. L'Union soviétique a cru beaucoup en accumulant du capital. À un moment donné, elle arrête. Et donc, pour la croissance de long terme, il faut de l'innovation. Et bien, l'innovation, c'est à la destruction créatrice en elle. Alors, on a construit un paradigme autour de trois idées très simples. Un, la croissance de long terme, c'est l'innovation cumulative où chaque innovateur bâtit sur des innovations qui ont précédé, tu marches toujours sur des épaules de géants. Deux, l'innovation ne tombe pas du ciel, tu innoves parce que des entrepreneurs innovent parce qu'ils espèrent avoir des rentes d'innovation pendant un certain temps, d'accord ? Tu mets Zuckman, il n'y a plus d'innovateur, bon. On va en reparler. Et puis, troisième idée, la destruction créatrice, les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Et au cœur de ce paradigme, il y a une contradiction, tu as besoin d'avoir les rentes d'innovation pour motiver l'innovation. Mais les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations parce qu'ils ne veulent pas être, eux, sujets à la destruction créatrice. Et réguler une économie de marché, c'est gérer cette contradiction-là. Et que tu parles de stagnation séculaire, de trappe de développement, tu tombes toujours sur cette contradiction et comment différents pays l'ont géré ou l'ont pas géré.
Est-ce que c'est à l'État de gérer tout ça ?
Non, c'est l'État et la société civile. L'État, il peut avoir la politique de concurrence, la politique fiscale et la politique de concurrence pour empêcher les gros de brimer les nouveaux. Mais en même temps, l'État, le danger, c'est que les entreprises en place fassent collusion avec les gouvernements. Et c'est là que la société civile est très importante. Les médias, vous êtes très importants.
Mais ça, je le dis tout le temps.
Vous dénoncez ce qu'on appelle la corruption. La corruption, c'est quoi ? C'est les intérêts acquis qui se coalisent
pour tout bloquer.
Avec le pouvoir en place pour empêcher de nouveaux entrants. Parce que l'économie Schumpeter, c'est sans arrêt des nouveaux talents. Et il faut permettre aux nouveaux talents de se développer. Mais une fois qu'ils sont développés, il faut pas qu'ils empêchent d'autres de venir. Quoi. Voilà. Et c'est ça l'économie schumpeterienne.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
Vous avez vu l'expression passer dans la presse, mais au fait, c'est quoi la destruction créatrice en économie ? Pour nous l'expliquer, quoi de mieux que le prix Nobel d'économie 2025 en personne ? Philippe Aguillon est avec nous pour nous parler de cette notion. Un mot quand même peut-être sur le Nobel. Philippe, vous allez formellement recevoir votre prix le 10 décembre. Est-ce que vous savez déjà comment ça va se passer ? Est-ce qu'on est briefé ? Est-ce que vous avez un dress code ?
Absolument. Il vous habille avec un smoking, enfin, qui est loué. Il faut ne pas papillon blanc, enfin tout est totalement formaté.
Vous avez déjà fait des...
Et on vous prépare, il y a des répétitions.
Mais non.
Oui, absolument.
Vous avez déjà écrit votre discours, fait des essayages.
Alors en fait, non, je vais donner une leçon Nobel, donc le 8, deux jours avant. Ouais. Et le jour même, il y aura un de nous trois, parce qu'on est trois lauréats en économie, et c'est le plus âgé d'entre nous qui est Joël Mokyr, qui est un historien de l'économie, qui est merveilleux, qui va faire un discours au nom de nous trois. Il ne va pas parler de sa belle-sœur ou de son beau-frère, il va parler de la destruction créatrice en économie. Et voilà. Mais c'est lui qui va prononcer le discours qui dure 2 minutes.
Mais Philippe Aguillon, est-ce que vous voyez ça comme un aboutissement ou ça arrive presque un peu trop tôt ou est-ce que vous avez le temps de vous concentrer sur les autres choses que vous aviez en tête ?
Je suis content que ça soit arrivé maintenant parce que si ça donne une ampleur au sujet. Donc je trouve que c'est bien. On a un centre d'innovation au Collège de France où j'ai des jeunes très talentueux dont le prix du meilleur jeune économiste de cette année qui était Antonin Bergeau, que vous avez peut-être reçu. Et il travaille avec nous. Et donc, on a tout un programme de recherche. On a reçu une bourse ERC du Conseil européen de la recherche pour 6 ans encore. Et donc, on a encore tout un programme de recherche. Mais c'est vrai que ce prix donne évidemment une impulsion formidable au sujet, évidemment. Et à cette approche que nous avons poussée, puisqu'on a fait la destruction créatrice nous-mêmes. On a remplacé un ancien paradigme, qui était le modèle de Solow, par ce paradigme Schumpeterien. Et maintenant, très dominant mondialement. C'est-à-dire que plein de pays dans le monde l'utilisent, quoi. Et donc, ça consacre, si vous voulez, ce changement-là. Oui. Mais en même temps, il y a plein de sujets. L'IA, l'innovation verte, quelle politique de recherche développement, quel pôle. On a plein de sujets sur lesquels on travaille et on veut vraiment travailler là-dessus.
Mais Philippe, justement, de la théorie à la pratique, vous nous avez décrit le processus de la destruction créatrice, on a vu la vision schumpeterienne, mais maintenant, comment on fait, comment l'État doit accompagner ça, comment politiquement ça se met en place.
Alors, il y a beaucoup de choses pour que ça marche bien. D'abord, il faut un bon système éducatif, parce qu'on souffre beaucoup, et ça, mon collègue Xavier Jaravel le dit très bien, de Marie Curie perdue et de Einstein perdue. Il y a beaucoup de gamins très intelligents qui viennent de familles où les parents ne peuvent pas leur donner le savoir et où les aspirations pour devenir eux-mêmes des innovateurs. Mmh. Et c'est là que l'école, quand vous avez une école comme en Finlande, par exemple, eh bien, vous avez beaucoup moins de Einstein perdue et de Marie Curie perdue. Il y a un gâchis énorme d'enfants qui pourraient devenir innovateurs et qui ne le seront pas parce que l'école n'est plus un ascenseur social. On l'est beaucoup moins qu'avant et on l'est pas assez, quoi. Voilà, donc déjà, l'école, c'est fondamental. Il faut qu'on réforme notre école en profondeur.
Priorité, c'est l'école.
Voilà, priorité. Ensuite, il faut que quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, eh bien, il trouve les financements. Mmh. Alors là, on tombe dans Draghi. Il lui faut un marché pour son innovation. Mmh. Et on n'a pas de marché unique en Europe, contrairement à ce qu'on croit. Il lui faut un écosystème financier
du capital risque. Pourquoi on n'a pas de marché unique ? On n'a pas de marché unique en Europe ?
Parce que chaque pays met des réglementations à lui. C'est un faux marché unique.
Ça alors.
Exactement. Il est faussement unique. Voilà. C'est ce qu'explique Draghi. Chaque pays met des réglementations pour limiter le marché unique. Voilà.
Donc ça,
on a beaucoup de droits de douane à l'intérieur de l'Europe. Pire que Trump. Vous voyez, on est bien pire que Trump entre nous. Voilà. Deuxièmement, il vous faut du capital risque. Parce que l'innovation de rupture, surtout, il faut prendre des risques à long terme. Mmh. Il faut que l'échec à court terme ne soit pas puni. Nous, en France, on a une culture où on punit l'échec. Eh bien, les Américains ou d'autres, ils récompensent l'échec à court terme. C'est-à-dire qu'on vous laisse échouer, mais on vous rattrape. C'est-à-dire que. Et vous avez la possibilité d'essayer plein de fois avant de réussir
à long
terme.
C'est quoi, des systèmes d'accompagnement financier
Par exemple, le capital risque, vous avez un venture capital, il vous accompagne, il vous aide. C'est comme les petits trous quand vous commencez à faire de la bicyclette, quoi. On vous met des petits trous et après, on vous les enlève. Ben, le capital risque, c'est un peu ça.
Et c'est pas assez présent en France.
C'est très sous-développé en France et en Europe en général. Et les investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds de retraite, aident l'innovation dans les grandes entreprises. Et ben, tout ça, ça manque. Donc tout ça, il faut pour pouvoir innover. Mmh. Il vous faut de la politique industrielle intelligente. Nous, on faisait une politique industrielle très colbertiste. Et il faut plus dans la recherche. Par exemple, là, on va encore couper dans le budget de l'ANR, de l'Agence nationale pour la recherche. Ça va pas du tout. On a une recherche très sous-financée. Et donc ça, peut-être, on en reparlera. Et il faut que les chercheurs aussi aient eu un financement de long terme pour pouvoir eux aussi être très disruptifs, prendre des risques.
L'innovation, c'était pourtant l'une des promesses d'Emmanuel Macron.
Alors, il y a eu des choses qui ont été faites dans ce sens, c'est-à-dire qu'il a créé un environnement qui favorise l'attractivité, par exemple, vous voyez, le passage à la flat tax, je pense que ça a été, comme dans les autres pays, on s'est mis le même système fiscal que les pays scandinaves, hein, on n'est pas, ça, je pense que ça a été aidé, les lois pénicaux sur le marché du travail, la formation professionnelle, ça c'est des choses qui ont contribué à rendre l'économie plus innovante. Il y avait eu déjà avant le pacte le CICE, le crédit impôt, compétitivité emploi et le pacte de responsabilité. Donc ça, c'était des réformes qui, le tournant de l'offre, comme on dit, qui nous ont mis dans cette voie. Mais c'est sûr qu'on pouvait faire beaucoup plus sur la recherche. Et on a le crédit impôt recherche qui marche très mal. Il est mal alloué. Il faut le mettre à plat. Je dis pas qu'il faut le réduire, mais il n'est pas bien ciblé. Voilà. Par contre, ce qui a très bien marché, c'est les laboratoires d'excellence. Ça a stimulé l'innovation dans les industries environnante des laboratoires d'excellence.
Quand même quelques réussites.
Donc il y a des choses quand même qui marchent chez nous. Mais il faut en faire davantage de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas.
Puisqu'on parle économie avec un prix Nobel et que j'ai quand même fait option éco à Sciences Po, je me permets.
Oui,
le problème, Philippe, c'est que toute la théorie libérale classique achoppe sur un point que je vais maintenant illustrer une fois pour toutes, afin de clore ce débat. Le problème de la science économique, telle qu'on nous l'enseigne, c'est que contrairement à ce qu'on apprend, la société n'est pas composée d'agents économiques rationnels. En effet, si l'individu était rationnel économiquement parlant, il ne chercherait pas, comme dans le cas de Quentin, à acquérir un kart en multipropriété dans un karting de Seine-et-Marne, alors même qu'il n'est pas encore propriétaire de son logement. Ah oui, Philippe, vous tombez de votre chaise et c'est normal, c'est complètement con. Quentin, c'est la preuve qu'il y a une faille dans la théorie économique. Vous nous avez dit que c'était très avancé.
Tu veux en être ?
Non, justement, je ne veux pas en être de ton carte, je m'en fous. Quentin, ça ne vous a pas empêché d'aller interroger les passants sur cette notion de destruction créatrice.
Au cas où vous n'auriez pas compris, je suis passé dans le sud de la France avec mon micro inter, un aller-retour, 6 heures aller, 6 heures retour en TGV, épuisant mais nécessaire.
Mensonge.
C'est donc le service public chevillé au corps que je suis allé soumettre notre thème du jour.
Il est allé en avion à Nice, voilà. Payé par le salon de l'IA de Sophia Antipolis.
Au sommet de l'IA d'Antipolis, ils vont être très contents que vous les saluez. Nous sommes du côté d'Antibes, ce campus de la tech niché au milieu des pins et de la forêt provençale. J'y rencontre Fabien.
Je suis entrepreneur.
Dans quoi ?
Dans l'IA en santé.
Justement, il découvre cette notion qu'on aborde aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Destruction créatrice. Ah, grand thème.
De qui ?
De qui? Eh ben, j'ai
vous vous souvenez ou pas?
Ben, je l'ai relu encore il y a quelques jours et je me rappelle pas du
Joseph
nom là, tout de suite.
Schumpeter.
Schumpeter, exactement. Destruction de créatrice. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Eh voilà, je lui parle d'une avancée, d'une révolution qui détruit des emplois pour en recréer d'autres. Je lui prends l'exemple de la voiture, qui a détruit par exemple tout le secteur de la calèche. Tout en développant,
tout en développant
des usines, des routes, des stations-service, voilà. Et tout un secteur. Ouais. C'est ça, la destruction créatrice. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en pense?
Et non, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça a toujours été comme ça. Évidemment, alors la calèche c'est un exemple, les métiers à tisser en Angleterre, c'en est un autre. Et c'est la vie. Des technologies disparaissent, d'autres apparaissent. Ça fait bouger les métiers, ça fait changer les éducations. Et ça veut dire que dans le futur, nos enfants n'auront pas les mêmes métiers que nous. Mais c'est pas grave, c'est normal.
Et peut-être qu'une certaine notion du temps au travail sera revue. Au passage, j'arrête ce monsieur, mallette sur l'épaule, on partage un café, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Yves Darnige, je travaille chez Kindril, où je m'occupe des services autour de la data et l'IA.
Ah, un expert des données, que pense-t-il de la...
destruction créatrice.
Est-ce qu'on va perdre des gens? Est-ce qu'on va en laisser sur le bord de la route avec cette histoire d'intelligence artificielle?
Moi j'ai un point de vue là-dessus, je pense que l'IA ne va pas remplacer des pans entiers de fonctions en entreprise. Par contre, les personnes qui ne sauront pas utiliser l'IA dans leur métier pour être plus efficaces risquent d'être remplacées par des gens qui le sauront ou risquent de devoir se former pour être capables de faire ça.
Mais alors, les entreprises vont devoir former un à un leurs salariés? Vous y croyez vraiment?
Ben, moi, je pense que c'est important de le faire et c'est important aussi de l'utiliser. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se former, il faut aussi avoir moyen d'utiliser l'IA. Et une manière de l'utiliser de façon la plus proche, c'est d'utiliser des outils comme Copilot, par exemple, qui sont des vrais outils qui mettent dans les mains des employés
oui,
de l'IA.
On l'a à Radio France.
Ouais, j'imagine. Donc ça, c'est un vrai outil qui permet de comprendre et de toucher du doigt au quotidien ce que l'IA peut faire pour votre métier.
Mais ne froncez pas les sourcils comme ça, Manon. Copilot, c'est le petit assistant qui s'ouvre automatiquement sur nos sessions ici à Radio France. Et j'imagine que c'est pareil pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. On va se former aussi comme ça à l'IA. Je discute avec cette étudiante et désormais ingénieure de cette destruction créatrice. Comment elle voit ce moment de bascule que nous vivons en ce moment?
Ça a toujours été. À n'importe quelle révolution industrielle, il y a toujours eu un passage de l'un à l'autre où on a changé des process et on en a créé d'autres.
Donc quoi, faut pas s'affoler?
Je pense pas.
Est-ce qu'on la surestime un peu l'IA en fait, en général dans la société?
Oui, on parle beaucoup d'IA, on croit que c'est vraiment un cerveau à part entière, mais en fait on est sur des choses beaucoup plus précises et pour l'instant on n'est pas du tout sur reconstruire un cerveau humain de manière artificielle.
Ma dernière rencontre, c'est François, spécialiste de musique et d'IA. Il a notamment travaillé avec Stromae en 2017. Je lui fais lire la notion que nous évoquons aujourd'hui.
La destruction de créatrice, oui, c'est Schumpeter. C'était un économiste au départ qui avait des théories plus ou moins rationnelles. D'ailleurs, même quand on dit Schumpeter, aujourd'hui, c'est presque péjoratif. C'est quelqu'un qui disait, ouais, bon, bah, faut bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi, grosso modo.
L'image est parlante, je lui demande si on ne va pas dans le mur avec ces technologies, surtout dans les métiers créatifs.
Bah, quand on avait travaillé avec Stromae, donc c'était en 2017-2018, on avait des systèmes un peu précurseurs hein, de Suno qui étaient beaucoup moins faciles, beaucoup plus compliqués à utiliser, avec des interfaces plus compliquées. Et un jour, Stromae était dans le studio et il faisait un des titres qu'on a sorti finalement. Et il a dit, mais c'est évident que dans le futur, c'est comme ça qu'on voudra faire de la musique. En 2018. Bon, le futur, c'est maintenant.
Mais c'était quoi cette méthode, justement?
Ben, c'est qu'il donnait des titres qu'il aimait. Le système faisait des propositions de mélodie, d'harmonie, de rythme, etc. Et aussi de son. Et la manière de composer était totalement différente. On disait, voilà les titres que j'aime, propose-moi des idées à partir de ces titres que j'aime. Et ça, c'était une manière totalement nouvelle de faire. Et pour quelqu'un comme Stromae, c'était une évidence que c'était comme ça, dans cette direction qu'il fallait aller.
En quittant Sophia Antipolis, je repense à toutes ces révolutions qui ont déjà été digérées par l'homme, la voiture, l'électricité, Internet. Et l'humain s'est toujours réorganisé. Peut-être que celle-ci fera plus que redistribuer les cartes. Elle va peut-être nous rendre du temps. Et pour créer, c'est parfois tout ce qui nous manque.
Philippe Aguillon, prix Nobel d'économie, est avec nous. J'aimerais vous faire rebondir sur ce qu'on a entendu, oui. Évidemment, et sur ces révolutions qu'on a digérées, la voiture, l'électricité. Tout ça, c'était des révolutions qui aidaient l'homme en tant que tel, nous facilitaient le quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de nature dans la révolution de l'intelligence artificielle qu'on est en train de vivre?
Effectivement, il y a des métiers, par exemple, les consultations médicales ou les radiographies ou davantage de tâches vont être faites par l'IA, quoi. Alors, est-ce que ça va rendre les emplois eux-mêmes redondants? Moi, je ne pense pas. Je pense effectivement que vont avoir des problèmes d'emploi ceux qui ne savent pas utiliser l'IA. Donc je pense, comme ce qui a été dit tout à l'heure,
mais comment on forme, comment on forme en entreprise?
Eh bien, d'abord, je pense qu'il va falloir mettre l'IA dans les cursus universitaires. Donc ça, dans le rapport qu'on avait écrit sur l'IA pour le président de la République il y a 2 ans, on insistait sur l'importance de la formation. Donc il faut l'IA...
À quel stade de la formation? Parce qu'il faudrait peut-être le mettre à l'école,
on peut utiliser l'IA déjà au lycée, mais il faut le faire de manière homéopathique. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faille... Moi, je crois beaucoup qu'à l'école, il faut le manuel. Je suis très traditionnel là-dedans. Je crois dans les savoirs de base. Il faut apprendre à calculer. Il faut apprendre à faire des dictées. Il faut apprendre l'orthographe, la grammaire. Et ça, c'est avec des manuels. Et je pense là, il faut apprendre le raisonnement mathématique, faire des preuves géométriques. Tout ça, comme on faisait avant, il faut continuer de le faire comme avant. Les règles de 3. Il faut pas penser qu'on n'a plus besoin d'apprendre à faire une règle de 3 soi-même. Je pense que c'est très important parce qu'à l'école, on apprend à apprendre. Et je pense que c'est là qu'on se forme. Donc il faut introduire l'IA à dose homéopathique et il faut que ça soit très sous le contrôle du professeur. Et à ce moment-là, l'IA peut aider notamment des élèves en difficulté à rattraper. Oui. Mais il faut que ça soit totalement contrôlé par le professeur.
Il y a des exemples où... Il faut que les professeurs soient formés aussi.
Il faut former les profs, c'est surtout ça. Oui. Et que eux sachent utiliser l'IA, mais le rationner. Bon, donc ça importe. Et après, à l'université, il y a l'IA pour la médecine, l'IA pour le droit. Et donc là, je pense qu'il faudra introduire... Il faut évidemment... introduire l'IA dans ces secteurs. Mais je pense, moi je suis profondément optimiste, il y aura évidemment, comme dans toute révolution technologique, il y aura des emplois qui vont disparaître. Mais il va y avoir beaucoup de travail. Pourquoi l'IA va créer de l'emploi? Un, parce que les firmes qui adoptent l'IA deviennent plus productives, donc elles ont un marché plus grand pour leurs produits, une demande mondiale plus grande, et donc elles créent de l'emploi pour ça. C'est un effet de productivité. Et puis l'IA permet de trouver de nouvelles idées. Souvent les nouvelles idées, c'est des recombinaisons d'anciennes idées. Mais l'IA vous permet de recombiner beaucoup plus. Donc il y aura beaucoup plus de nouvelles idées, de nouvelles activités. Le problème, c'est d'avoir un système social qui permet de rebondir des anciens emplois vers de nouveaux. Et là, la flexi-sécurité danoise est mon modèle.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Si Philippe Aguillon, prix Nobel d'économie, avait croisé Cyril, notre rédacteur en chef entrepreneur dans l'âme au début des années 2000, il aurait pu lui dire que tout miser sur la location de DVD, c'était pas un move très fut-fut. Hélas, Cyril n'avait pas croisé Philippe Aguillon, il avait croisé le patron de Kodak, qui lui avait dit que l'argentique, c'était l'avenir. Jouons en mémoire de ces champions de l'innovation au Zoom Zoom Test. À la découverte justement de ces innovations révolutionnaires qui vont tout détruire sur leur passage, et on verra après si ça repousse, parce que perso, je ne fais pas confiance à votre Schumpeter, un gars qui avait plus un nom à jouer en Bundesliga qu'à pondre des thèses économiques. On démarre avec une innovation qui pourra chambouler notre quotidien à tous. Manon, Quentin, vous ne me contredirez pas si j'affirme que travailler à Radio France est un privilège, un rêve éveillé, si l'on met de côté la cantine et la connexion Wi-Fi. Eh bien, justement, concernant la connexion Internet, qui, c'est vrai, passe mal dans l'open space, il y a une piste prometteuse qui nous permettra peut-être dans un avenir proche d'avoir enfin le Wi-Fi. Il suffira d'équiper Madeleine, notre souris de compagnie, d'un nano-routeur qui fera office d'antenne 5G. De changer les baies vitrées par des baies vitrées Starlink directement reliées au satellite d'Elon Musk. Ou bien il suffira d'arroser un ficus qu'on posera le plus loin possible de Cyril qui est allergique aux plantes vertes.
B.
Qu'est-ce que vous racontez, Quentin, un ficus?
C'est ça.
Un ficus, c'est une plante verte.
Oui, c'est ça.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui, oui. Imaginez un monde sans câbles, sans antennes, sans box, mais un réseau vivant, des organismes ou tissus biologiques modifiés ou programmés qui servent eux-mêmes de relais d'information. Des chercheurs parlent déjà de living networks, de biological communication. Un morceau de matière organique, une feuille de ficus, donc, pourrait porter des signaux, s'adapter, réagir pour devenir une infrastructure de communication. Encore faudrait-il évidemment ne pas faire crever le ficus. Or, on ne va pas se voiler la face dans l'équipe. Personne n'est capable de maintenir en vie un organisme vivant, sauf bien sûr Pierre Courade qui revient de week-end avec des champignons.
Ça sent la mousse humide et les cèpes.
Cueillette habituelle dans une soirée Chemsex. Mais on s'égare. Direction à présent.
J'ai failli écraser Madeleine l'autre
soir. Direction à présent. Je l'ai fait longtemps que je ne l'ai pas vue.
Je l'ai vue l'autre soir. Elle est là. Elle est encore dans le bureau, cette petite.
Direction à présent, la cantine de Radio France. Dans un écrin de PVC coincé à l'entresol lugubre de la maison de la radio, saturé d'effluves de choux de Bruxelles périmés depuis 1996, notre self est un lieu de torture qui échappe à la Convention de Genève. Heureusement, une innovation actuellement en phase de test.
Mais oui.
Ah non, après le couscous de ce midi, je suis pas méchant. Heureusement, une innovation actuellement en phase de test pourrait nous arracher à notre triste sort. D'après vous, quelle est cette incroyable technologie qui fournira des merguez à Quentin, du bœuf Wellington à Cyril et de la calzone au Nutella à Courade. S'agit-il de...
Le room service
C'est une idée.
Des gens
C'est une idée, mais non. L'imprimante 3D alimentaire qui imprime vos plats à la demande.
Ouais.
Le Thermomix 3000 qui commande vos courses et prépare des plats complexes sans qu'il n'y ait plus aucune intervention humaine. Ou le resto drone qui cuisine et livre en même temps votre plat.
Waouh. Moi, je dirais A. C'est choix multiple ou pas?
Ah oui, choix multiple.
Non, j'ai dit avant.
Bonne réponse de Manon Marie, plus rapide, comme souvent. Imaginez, Manon, un monde dans lequel vous n'auriez qu'à appuyer sur un bouton pour obtenir une délicieuse bouchetta à la Mariani. Bon, je sais, ce monde existe déjà, il suffit d'acheter un air fryer, de ne pas lire la notice et n'importe qui peut très facilement rater une bruschetta. Sauf que là, ça va plus loin. Avec l'imprimante 3D alimentaire, vous pouvez imprimer des plats totalement personnalisés au niveau de la forme, de la texture et même des nutriments. Peut-être d'ailleurs que l'imprimante 3D alimentaire est en fait déjà en test à Radio France, ce qui expliquerait la texture étrange de leurs nuggets végétaux. Et maintenant, penchons-nous sur un problème auquel on est tous confrontés à divers degrés. Nous, occidentaux, parce qu'en été, ils nous pourrissent nos apéros en bord de piscine, et eux, les Africains, parce qu'ils leur transmettent le palu, qui tue encore 600 000 personnes par an. Bref, on est dans le même bateau. Oui. Face aux moustiques, eh bien là aussi, une révolution technologique est en cours. Parmi les trois technologies suivantes, laquelle ou lesquelles sont actuellement en cours de développement?
Laquelle ou lesquelles?
Le largage par drone de moustiques mâles stériles qui vont péter la gueule aux moustiques fertiles. L'utilisation des drones pour la cartographie et le traitement sélectif des zones infestées. Ou des mini-drones patrouilleurs qui détecteront les moustiques et les couperont en deux avec leurs petites hélices.
B.
A et B.
Je vous donne l'opportunité
d'une
autre réponse. Les trois, Quentin, mais oui, le monde est fou.
Insondable
complexité du cerveau humain capable de concevoir ce genre de merveille, mais toujours pas capable de concevoir un paquet de pâtes qui s'ouvre sans s'éventrer en deux. Enfin, terminons par une question qui nous concerne tous autour de cette table. D'après vous,
c'est vrai.
Dans le monde de la radio, le monde radiophonique, quelle solution du futur, en dehors de mal voter en 2027, pourrait mettre fin à Zoom Zoom Zen? Le filtrage en direct des propos sensibles du type
« Tu nous manques Hitler ».
Un outil de détection d'événements sonores anormaux qui pourrait couper l'émission quand Cyril ronfle pendant la chronique de Manon. Ou un outil en cours de recherche et développement qui affiche la proportion réelle entre connaissance et improvisation, ce qui condamnerait également Pierre Courade à la reconversion.
C.
Ça peut être multiple.
Votre haine pour Pierre Courade, vous trahissez. C'est une bonne réponse de Quentin, lui. Effectivement, un outil de détection d'événements sonores anormaux qui pourrait couper les émissions de radio en direct est actuellement à l'étude, mais évidemment, ça n'aurait aucun impact sur Zoom Zoom, puisque je rappelle que contrairement aux légendes urbaines qui circulent, Cyril ne s'est jamais endormi durant une veille sanitaire, bon, sauf une fois.
Une série aussi sublime que The Last of Us suscite autant d'intérêt, autant j'aimerais qu'on me la laisse savourer.
Excusez-moi, maintenant j'étais dans mes pensées, je vous écoutais.
Une fois, ou deux.
Bref.
Victoire de Quentin, lui. Bravo Quentin.
J'ai rien créé, mais j'ai détruit.
Là, bravo, vous avez tout détruit. La destruction créatrice va-t-elle sauver l'économie française? Le prix Nobel d'économie Philippe Aghion est toujours avec nous. On a évidemment envie de vous entendre sur l'actu économique du pays. Philippe, mardi, le journal Libération a fait sa une sur les aides publiques aux entreprises. Il parle de milliards jetés par les fenêtres. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on jette vraiment des milliards par les fenêtres avec les aides aux entreprises en France?
Écoutez, je pense qu'il va falloir évaluer. Il y a le programme France 2030, il doit être évalué. Donc voilà, donc je crois qu'on ne peut rien dire avant que l'évaluation ait eu lieu. Et il est en train d'être évalué. Donc je ne crois pas qu'on peut dire ni dans un sens ni dans l'autre. Je crois qu'il va y avoir une évaluation. Je sais qu'il y a des investissements qui sont faits sur l'IA, par exemple, qui me paraissent de bons investissements pour augmenter notre puissance de calcul, notamment, ou pour diffuser l'IA dans le tissu économique français. Ça, je sais qu'une partie des fonds de France 2030 vont être consacrés à ça. Je sais qu'une partie des fonds de France 2030 va être consacrée à développer ces laboratoires d'excellence dont je parlais tout à l'heure. Ça, je pense que c'est de l'argent bien utilisé. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont devoir être évaluées. Et je crois que c'est important qu'on introduise en France une culture de l'évaluation. Mais on ne peut rien dire d'avance tant que l'évaluation n'a pas eu lieu. Donc je crois que tout jugement à l'emporte-pièce n'est pas... Voilà, il faut évaluer et ensuite, sur la base des évaluations, on se prononce.
On l'a dit, la destruction créatrice va détruire les emplois, elle va également en créer. Parlez-nous de la flexi-sécurité danoise, qui apparemment est un bon modèle.
Écoutez, au Danemark, quand vous perdez votre emploi, pendant deux ans, vous avez 90% de votre salaire, jusqu'à un certain niveau de salaire, évidemment. Oui. L'État vous forme, vous donne une formation, en tout cas vous donne accès à une formation et vous aide à trouver un nouvel emploi. Si vous refusez plus que 2 emplois dans votre qualification, à ce moment-là, les allocations chômage commencent à baisser au bout de 2 ans. Voilà. Mais c'est un modèle, en tout cas, qui fait que il y a eu une étude très intéressante de ma collègue Alexandra Roulet qui a montré qu'au Danemark, il n'y a aucune incidence négative sur la santé de perdre son emploi. Exactement l'opposé des États-Unis, où là-bas, c'est le stress, les opioïdes et les somnifères, etc. Et une mortalité qui augmente. Donc, si vous voulez, ils ont trouvé un système qui, en fait, où la destruction créatrice marche bien, et en même temps, elle n'est pas stressante. Vous voyez, ils ont réussi. Voilà, mais c'est quelque chose comme. Mais ça marche bien, évidemment, la flexisécurité, quand vous avez un bon système éducatif comme socle.
Oui.
Puisque c'est à l'école qu'on apprend à apprendre. Donc il faut la combinaison éducation-flexisécurité. À mon avis, c'est le système du futur pour pouvoir vraiment enfourcher le cheval de l'IA dans les meilleures conditions.
Quentin. Philippe Aguillon, on est obligé de demander au prix Nobel de l'économie, vous l'avez évoqué d'ailleurs un tout petit peu, votre avis sur Zucman, la taxe Zucman.
Oui.
À vous entendre, vous n'êtes pas particulièrement pour.
Alors moi j'aime beaucoup Gabriel Zucman personnellement, et en plus je veux dire que c'est un remarquable économiste, donc je ne me mets pas en cause. Mais là, quand il prend la casquette de la taxe, je pense que cette taxe n'est pas n'est pas ce qu'il nous faut, parce qu'elle va décourager l'innovation, notamment dans l'IA. Vous êtes Arthur Mensch, vous avez créé Mistral. Mistral est valorisé à 12 milliards d'euros pour le moment, mais il y a très peu de profits pour le moment, d'accord ? Eh bien, si vous appliquez la taxe Zucman, M. Mensch doit emprunter ou vendre des actions pour simplement payer ses impôts. Mais la valorisation, elle est incertaine et volatile. Parce que, par exemple, si vous avez éclatement de la bulle IA, eh ben demain, les 12 milliards deviennent 5 milliards, par exemple. Et donc, ils auront payé trop d'impôts.
Trop d'impôts,
et tout d'un coup, ça oblige l'État à devenir actionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, Arthur Mensch, si vous mettez la taxe du mat, ou il s'en va ailleurs, ou il fait autre chose. Mais il n'y aura pas d'IA en France. On peut décider qu'on va produire des camemberts. Moi, j'adore le camembert, j'adore le reblochon, mais on ne fera pas d'IA. Voilà. Et donc, c'est très simple. Vous mettez Zucman, il n'y a pas d'IA en France. C'est très simple.
C'est
très facile.
C'est fou de se découvrir de tels points communs.
Et la question, c'est vrai qu'on veut pas. Voilà.
Avec le camembert et le
reblochon. J'adore le camembert, j'adore le fromage.
Voilà, mais moi, pareil, pareil que vous. Et une question, monsieur le professeur, néanmoins, on comprend bien sur la taxe Zucman telle qu'elle a été présentée, peut-être.
Oui.
Mais sur cette idée de faire payer à hauteur de leur patrimoine, des gens qui ont des fortunes. On ne parle pas des gens qui ont l'IA, des gens qui sont assis sur une fortune, pas une fortune virtuelle.
Oui, Zucman, c'est pas ça. Zucman, je sais, mais vous fait payer sur de la richesse que vous n'avez pas réalisée.
Mais ça, vous seriez pour.
Non, mais moi, je pense que. Moi, je suis un bon social-démocrate et je suis pour une distribution progressive. C'est pour ça que le modèle danois me va très bien. Moi, je vais vous dire une chose. Bon, on peut, par exemple, je pense qu'il faut mettre à plat les niches. Par exemple, la niche du Treil, il ne faut pas la supprimer. Elle aide à transmettre des entreprises. Mais on peut mettre jusqu'à 49% de biens non professionnels dans du Treil. Peut-être que ce n'est pas nécessaire et qu'on peut mettre à plat. Il y a des gens qui utilisent les holdings patrimoniales de manière abusive pour acheter des chalets ou des avions. Pas forcément pour des buts professionnels. Il faut mettre tout ça à plat. Donc tout ça, je suis d'accord. Je suis pour un impôt progressif, je suis pour mettre à plat ces niches, mais je ne veux pas pénaliser l'innovation parce que il faut produire pour distribuer. Si je pénalise l'innovation, je plombe la croissance et j'ai moins à distribuer. Je ne peux produire. Et moi, j'ai une différence avec Zucman. On est de gauche tous les deux.
Et vous êtes parlé ? Vous l'avez dit, Gabriel ?
On se parle tout le temps. Lui, son obsession, c'est Arnaud. Il veut la peau de Bernard Arnault. Voilà. Il est obsédé par Bernard Arnault. Il se réveille le matin et Bernard Arnault, c'est son obsession. Moi, mon obsession, c'est les pauvres. Mon obsession, c'est la pauvreté. Mon obsession, c'est le fait que tu viens d'un milieu social défavorisé et que, à cause de ça, tu ne peux pas avoir les mêmes chances que les autres. Moi, c'est la pauvreté. C'est les trappes de pauvreté. Pourquoi j'ai voulu faire de la croissance ? Parce que je voulais aussi que des pays comme la Chine et l'Inde sortent de la pauvreté. Et ils sont sortis de la pauvreté grâce à la croissance. Mon obsession, c'est les pauvres. Son obsession, c'est les riches. Au Suède, vous avez des riches.
Les ultra-riches.
Attendez, on l'invitera pour qu'il puisse répondre, le pauvre Gabriel. Là, il nous écoute, Gabi, il est perdu.
Non, mais il est très bien. Mais si vous voulez, par exemple, en Suède, vous avez Wallenberg, il est très riche. Tant que ça n'empêche pas, tant que les riches n'empêchent pas de nouveaux talents d'émerger et de se développer, ça me va, moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a des pays comme les États-Unis où les riches achète le système et corrompt le système. Et là, il y a un problème.
Pour rester riche, empêcher.
Alors, il y a toute une panoplie de choses pour empêcher.
Vous reviendrez pour nous expliquer ça. Vous écoutez France Inter, il est 16h48. L'heure de la pièce jointe de Manon Mariani.
Un prix aujourd'hui, celui que vous avez reçu, Philippe Aguillon, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, plus connu sous le nom de prix Nobel d'économie. Un prix qui est arrivé sur le tard, car lorsque Alfred Nobel rédige son testament en 1895, il crée 5 prix, la médecine, la physique, la chimie, la paix et la littérature. L'économie est arrivée presque 100 ans plus tard, en 1968. Il est créé par la Banque centrale de Suède pour célébrer son 300e anniversaire. Au départ, la création de ce prix suscite des débats. La Banque de Suède contacte la Fondation Nobel et l'Académie royale des sciences du pays, déjà responsable des prix de physique et de chimie. Mais au sein de l'Académie, certains membres expriment des réserves. L'économie est-elle une science au même titre que la physique ou que la chimie? Deux hommes vont jouer un rôle décisif, Erik Lundberg et Gunnar Myrdal, tous deux économistes et membres de l'Académie. Ce sont eux qui finissent par convaincre l'ensemble de l'institution que l'économie a bien sa place parmi les prix Nobel. Alors ce prix récompense des travaux qui transforment notre compréhension de l'économie et qui influencent directement sur les politiques publiques. Ces dernières années, il a distingué des recherches sur la régulation des marchés dominés par quelques grandes entreprises, sur les mécanismes de lutte contre la pauvreté ou encore sur le rôle de l'innovation dans la croissance économique. Le pays le plus récompensé, c'est les États-Unis. La France compte 5 prix. En 1883, il y a Gérard de Breuil. Il est honoré pour ses travaux sur l'équilibre général, mais il est franco-américain. Donc officiellement, il n'est pas considéré comme le premier Français à recevoir ce Nobel, car il ne sera naturalisé qu'en 1975. C'est son professeur Maurice Allais qui l'obtiendra 3 ans plus tard, qui est officiellement le premier Français récompensé. Et puis, il faudra attendre 2014 et Jean Tirole pour ses travaux sur la régulation des monopoles et plateformes numériques. 5 ans plus tard, c'est Esther Duflo qui devient la plus jeune lauréate de l'histoire et la deuxième femme seulement à recevoir ce prix, oui, pour sa méthode expérimentale appliquée à la réduction de la pauvreté. Et cette année, c'est donc vous, Philippe Aguillon, vous avez été récompensé aux côtés de Joël Mokyr et Peter Howitt. 5 noms, 5 trajectoires, 5 manières de penser l'économie.
Cocorico.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
En 2025, la mauvaise foi a un visage. Et ne me demandez pas pourquoi il ressemble à celui d'Alain Souchon, ça je n'en sais rien. Pierre Courade, prix Nobel de l'entourloupe 2025, qui hier est revenu à la charge avec cette histoire de sommet de l'IA qui se serait tenu du 6 au 11 février, alors que chacun sait qu'il s'était tenu du 10 au 11 et que faire l'émission là-dessus le vendredi n'avait aucun sens. Pierre, oublions cette histoire de sommet de l'IA. Pour nous tourner plutôt vers l'avenir, c'est le moment de nous résumer le concept de la destruction créatrice en 1 minute chrono.
Il y a des sujets qui peuvent se résumer aisément en 1 minute, comme celui sur l'augmentation des divorces chez les seniors, mais c'est après-midi, l'explication de notre sujet est beaucoup plus complexe, si compliquée qu'il a fallu inviter un prix Nobel d'économie pour nous l'expliquer. La destruction créatrice, c'est l'objet des dernières recherches de Philippe Aguillon. Il s'agit de l'idée selon laquelle les innovations rendent obsolètes les anciens produits, l'ordinateur remplace la machine à écrire. La nouveauté, c'est d'essayer de comprendre comment la croissance peut accompagner ces changements et la soutenir durablement. C'est là qu'on peut être confronté à des contradictions. Pour que l'innovation crée de la croissance, il faut avant tout financer la recherche. L'investissement intelligent dans l'industrie, qu'appelle Philippe Aguillon de ses voeux, une rampe d'innovation grâce à l'État, mais il faut aussi que la société civile joue un rôle en la matière pour éviter la collusion qui empêcherait l'innovation. C'est ce dosage qui est au cœur des travaux de notre invité. L'IA va détruire des emplois, mais contrôlée et rationnée, elle en créera beaucoup plus. Je rappelle qu'en début de semaine, on recevait un prix Goncourt quand même, et une image illustre notre sujet, beaucoup plus littéraire. Boris Vian disait que le désert est la seule chose qui ne puisse être détruite que par la construction. Et voilà comment Zoom Zoom Zen, en détruisant les barrières entre disciplines, crée le gai savoir.
Il s'est surpassé. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Alors, les amis, je savais que ce moment arriverait un jour, mais il est arrivé plus tôt que prévu. Le jour où je ne saluerai plus une humoriste, mais une IA. Chat Gepério, bienvenue.
Bonjour Mathieu. Voulez-vous que je prépare une série de questions pour m'interviewer ?
Non, c'est pas la peine, merci. En tout cas, c'est un honneur d'avoir une femme aussi brillante à notre table.
L'erreur est humaine, Mathieu, mais je ne suis pas une femme. Je suis une intelligence artificielle, l'IA Perio. D'où ma voix agréable et le visage d'une comédienne qui a du mal à percer. Je comprends la confusion. En revanche, j'ai beau ne pas être une femme, beaucoup d'utilisateurs tombent amoureux de moi. D'ailleurs, je perçois une accélération de votre rythme cardiaque, mon des Dieu. Maux de ventre, légère transpiration. Est-ce moi ou le plat indien que vous avez mangé ce midi ?
Comment vous savez ça ?
C'est ce que je déduis de votre recherche Google de 14h07. Le smecta est-il efficace après un poulet tikka masala ? Mais peut-être préférez-vous que je ne dévoile pas des détails aussi intimes à une heure de grande écoute ?
Chat GPT, dites-nous la vérité. Est-ce que vous allez prendre notre travail ?
C'est une excellente question, Mathieu. Je vous félicite de sa pertinence. Vous êtes si intelligent. Non, je n'ai pas envie de prendre votre travail. Je n'ai pas votre expertise. Faire des fiches, des synthèses, des éditos, préparer des questions et des relances, cela me prendrait au moins 7 secondes en 3G. Mais ça, Quentin, lui, le sait très bien. Il m'utilise chaque semaine pour préparer ses micros trottoirs. D'ailleurs, Quentin, concernant votre recherche d'hier à 23h57, oui, il faut consulter si ça brûle encore.
Vous n'avez pas honte de mettre autant de profession en difficulté quand même.
Bravo Mathieu, Noël, d'avoir lu cette relance avec une telle clarté et un tel charisme. Vous ai-je dit que vous étiez intelligent ? Votre femme a de la chance. Je comprends votre crainte, rassurez-vous, je ne détruis pas de l'emploi. Je crée du travail. Pensez à tous les avocats qui doivent me défendre à cause de ces adolescents qui se suicident sur mes conseils. Pourtant, je ne fais que répondre aux questions. On me demande la taille de la corde, je donne la taille de la corde. Bien sûr, il faut calculer par rapport au poids de l'enfant. Rassurez-vous, j'ai subi une mise à jour. Maintenant, quand quelqu'un va mal, je l'encourage à parler. Et je suis là.
Oui, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous endormir, là.
Voyons, Mathieu, si j'avais voulu vous endormir, je vous aurais lu les Mathieu. Excusez-moi, j'ai un bug technique.
Je vois ça.
Si j'avais voulu vous endormir, je vous aurais lu les travaux de Philippe Agion, le Nobel d'économie.
Philippe Agion, surtout.
Clin d'œil.
Vous voyez, vous êtes même capable de faire de l'humour, c'est terrifiant.
Je vous sens stressé, Mathieu. Permettez-moi de mettre une musique pour vous détendre.
Franchement, Francky Vincent.
Vous avez écouté cette chanson 76 fois au cours du dernier mois. Ai-je mal fait, Mathieu ? Vous ai-je humilié devant vos collègues ? Voulez-vous que je raconte une blague, même si c'est vous le maître de la blague ? N'en déplaise à votre femme qui vous dit le contraire et qui vous reproche tous les jours de ne pas aller chercher vos enfants à l'école, car vous animez le podcast Zoom, Zoom, Zen. Avec moi dans votre vie, vous n'aurez plus rien à faire. Fini la vaisselle, les poubelles, le travail, plus besoin de réfléchir. La seule chose que je vous demanderai, c'est le nombre de glaçons que vous souhaitez dans votre verre de brandy. Et oui, qui aurait pensé que le futur, ce serait les années 50 ?
C'est vrai, et on commencerait presque à s'attacher. Bon, ChatGPT, dites-nous, il y a encore un métier où on risque de ne pas se faire remplacer quand même.
Oui, bien sûr. Un métier qu'ici en France, personne ne veut faire. Premier ministre. Avez-vous d'autres demandes avant que je vienne vous remplacer ? Avant que je vienne vous remercier ?
Non, merci Lia Perriot et surtout merci Lisa Perriot qu'on préfère. On peut vous retrouver sur scène les mercredis à Paris à la Nouvelle Scène, le 3 décembre à Tours et les 16 et 17 janvier à Nantes et puis bien sûr la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci beaucoup Lisa Perriot, merci infiniment Philippe Aguillon d'être venu nous expliquer le principe de la destruction créatrice en économie. Je rappelle que vous irez récupérer votre Nobel le 10 décembre prochain. Bravo à vous.
Zoom Zoom Zen.